Et voici la joie, la souffrance de la radiographie du coronavirus avec vous Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous vous demandez si on va vraiment pouvoir échapper à une troisième vague.
Ben oui, Guillaume, a priori, les mêmes causes produisant les mêmes effets, puisque on s'engage dans le déconfinement, alors même si c'est vrai de manière plus lente et plus progressive que la première fois, mais puisque d'autres vacances, hein, pas celles d'été, mais celles de Noël arrivent finalement, pourquoi est-ce que ça se passerait différemment qu'à la rentrée ? Eh bien, pour comprendre ce qui risque ou non de nous arriver au mois de mars, il faut comprendre ce que sont les modèles d'évolution et ce qui s'est passé, en fait, pendant cette deuxième vague, notamment par rapport à la première. Et il y a plusieurs choses qui sont, en fait, vous allez l'entendre, moins évidentes qu'il n'y paraît. Tout d'abord, commençons par parler de la décrue épidémique. Vous vous souvenez, c'est important de le garder à l'esprit, que entre la contamination réelle, c'est-à-dire le moment où on est infecté, le moment où on déclare des symptômes, les hospitalisations, puis la réanimation et in fine la guérison ou le décès, il y a des décalages successifs qui s'appliquent, hein, entre l'instant T de la contamination et le moment où on va être testé positif, c'est-à-dire avoir déclaré les symptômes, etc. Il se passe en moyenne une semaine, plus une semaine de plus pour l'hospitalisation, etc., etc. Ce décalage-là, il est important parce que ça montre qu'il est difficile d'avoir une idée en temps réel du nombre de contaminations. Il y a toujours un décalage au moment du test, notamment. Néanmoins, il y a un examen qui peut nous renseigner sur ces contaminations en temps réel. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et ce qu'on observe lorsqu'on prend en compte cet indicateur, c'est que la décroissance épidémique de cette deuxième vague, elle est survenue extrêmement tôt. En Île-de-France, dès le 22 octobre, c'est-à-dire 5 jours après la mise en place du couvre-feu, le nombre de contaminations n'a pas baissé, mais l'augmentation des contaminations a commencé à réduire. Et comment on le sait ? On le sait en analysant les eaux usées, en fait, en analysant le nombre de virus, la charge virale qu'il y a dans les eaux usées. Et donc, on se rend compte que, eh bien, le nombre de contaminations a commencé à réduire très très tôt après le couvre-feu. Alors donc, on pourrait se dire, ça veut dire que le couvre-feu est efficace. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça, parce que ça coïncide également avec les départs en vacances. Alors, couvre-feu ou départ en vacances, c'est difficile de le dire, mais c'est important de savoir que, cette diminution des contaminations a débuté très vite pour ce qui est de la dynamique épidémique.
Bon, vous ne pouvez pas écarter l'éventualité, Nicolas, selon laquelle le couvre-feu seul aurait suffi, ce qui serait un bon signe pour la suite.
Alors, on peut évidemment pas l'écarter au vu de ce que je viens de vous dire, mais comme nous l'a dit Mircea Sofonea, qui est maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'Université de Montpellier, que nous avons interrogé, le niveau exact d'impact d'une seule mesure est impossible à prévoir. Parce qu'il y a déjà la superposition des mesures, comme je vous le disais, le couvre-feu, le départ en vacances, mais aussi la fermeture des lieux de socialisation, des bars, des restaurants. Bref, il y a trop de paramètres. Il y a un autre paramètre essentiel qui est celui de l'adhésion ou non de la population à ces mesures. Mais ce qui est sûr, et ce qu'on peut dire de manière certaine aujourd'hui, c'est que s'il n'y avait pas eu de confinement, peut-être que le ralentissement de l'épidémie aurait été provoqué par le couvre-feu, mais il aurait été moins rapide. Le confinement a permis d'accélérer très nettement la réduction des contaminations. Reste donc à savoir, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, si avec un confinement allégé, voire avec des mesures de restriction minimales telles qu'elles doivent être appliquées à partir du 15 décembre vraisemblablement, est-ce qu'on peut échapper à une troisième vague ? Pour cela, il faut savoir quand on va finir la deuxième vague, évidemment. On sait qu'il y a une décroissance, on sait qu'aujourd'hui le nombre de cas réduit, qu'on a dépassé le pic, mais à quel moment est-ce qu'on va atteindre des niveaux qui seraient semblables à ceux du début de l'été ? Selon Mircea Sofonea, sans aucune modification des paramètres, sans le relâchement finalement des mesures de contraintes, les prévisions indiquent qu'il faut attendre janvier 2021 pour revenir à une occupation des lits similaire à celle d'octobre. D'accord ? De fait, le président a promis que le confinement s'arrêterait le 15 décembre si les indicateurs sanitaires passaient au vert, c'est-à-dire passaient sous les 5000 cas, hein, ce qui est, rappelons-le, une valeur arbitraire de contrôle de l'épidémie, mais ça reste encore un seuil relativement élevé puisque de mai à juillet, je rappelle qu'on était sous les 1000 cas par jour. Donc la question c'est, est-ce que la rouverture des commerces, la liberté de circulation un peu plus grande, va freiner cette décroissance ? Selon les modèles, qui, comme vous le savez, peuvent se projeter qu'à courte échéance, si on veut garder un taux de confiance élevé, le taux de contamination devrait s'établir autour de 10 000 cas par jour au 1er décembre. Donc on peut raisonnablement croire que le 15 décembre, dans 3 semaines, la situation ne se sera pas encore brutalement dégradée et que la circulation va être a priori à nouveau autorisée.
Bon, mais à quel moment, Nicolas, aura-t-on des éléments suffisants pour dire s'il y a un risque ou pas d'avoir donc cette fameuse troisième vague ?
Eh bien écoutez, a priori pas avant le 20 janvier. Pourquoi ? Eh bien pour les raisons que je vous expliquais, qui sont les raisons de décalage dont je vous parlais. Et c'est-à-dire que c'est autour du 20 janvier qu'on verra les conséquences réelles et des vacances et des fêtes de fin d'année. Et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur que nous avons commis, que le gouvernement a commis, que nous avons tous commis collectivement. Bref, peu importe, à la rentrée. Si au 20 janvier, on constate, comme nous l'a dit Mircea Sofonea, une reprise comme celle qu'on a vue à la mi-octobre, alors on aura de façon certaine une troisième vague inévitable fin mars. Pour ne pas en arriver là, il y a donc deux leviers. Le levier politique en fonction des indicateurs notamment, et donc être capable de dire si au 15 décembre, si la diminution des cas a été ralentie, c'est-à-dire que si on continue à être infecté, on recommence à être infecté un peu plus, même si la courbe est toujours descendante, alors il ne faut pas lever plus ou trop le confinement. En tout cas, il faut prendre des décisions afférentes à ces chiffres. Et puis, il y a, comme je vous le disais, l'adhésion de la population. Si les fêtes sont évidemment synonymes de relâchement similaire à celui d'été dernier, les chiffres parleront très vite, on le verra immédiatement. Et donc, ce sera aux politiques de les prendre en compte immédiatement et de ne pas se laisser avoir par ce fameux effet retard qui a donné lieu à la deuxième vague. Et puis, alors, il y a évidemment, vous allez me dire, le vaccin. Même en étant extrêmement optimiste, comme le président qui compte, comme vous l'avez entendu, hein, sur une première campagne de vaccination fin décembre, début janvier, il ne faut pas trop se fier sur ce vaccin pour, en tout cas, empêcher une troisième vague pour deux raisons. D'une, parce que une campagne de vaccination fin décembre, début janvier, c'est déjà très optimiste. Et deux, il faut se souvenir que le vaccin, il y a 2 injections à 21 jours d'écart et que les premières personnes qui seront vaccinées, ce seront les personnes les plus fragiles. Et en tout cas, ça ne pourra pas avoir un effet immédiat sur une éventuelle troisième vague à si court terme.
Et puis on termine avec un tableau de l'INSEE qui circule sur les réseaux sociaux. Il n'y aurait pas eu de surmortalité liée au Covid en France cet été. C'était donc un complot dans lequel vous auriez joué votre rôle, Nicolas, je crois.
Évidemment, vous savez bien que je suis piloté par les Illuminati, Guillaume, depuis le temps que vous me connaissez.
Voilà, non, il était temps de l'avouer, merci Nicolas.
Oui, il était temps de l'avouer publiquement. Donc, il faut dire 2 choses. Tout d'abord, premièrement, c'est important, ça n'est pas un tableau de l'INSEE. C'est un tableau qui a été effectué par des internautes à partir de chiffres de l'INSEE, ce qui, vous en conviendrez, Guillaume, n'est pas tout à fait la même chose. Non. Deuxièmement, c'est une mauvaise interprétation des mauvais chiffres de la mortalité sur un mauvais tableau. Je vais vous expliquer ça. En fait, les internautes ont pris un fichier qui s'appelle le fichier nominatif mensuel des personnes décédées. C'est un fichier qui indique chaque mois, personne, individu par individu, nom par nom, les décès un par un. Mais il faut savoir, Guillaume, que chaque mois, les déclarations à l'INSEE des personnes décédées, les mois précédents, ne correspondent pas toujours au mois. C'est-à-dire qu'on peut déclarer, par exemple, au mois d'octobre, quelqu'un qui est décédé en août. Donc, en fait, vous voyez, il y a une sorte d'effet retard et il faut plusieurs mois avant que les chiffres soient fixés. D'ailleurs, on voit très bien sur ce faux tableau qu'on constate une surmortalité en mars et en avril, parce qu'en mars et en avril, aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE, eh bien, ils ont été percolés, si vous voulez, et on a le nombre total de décès. Donc, ce qu'on voit et ce qui ne marche pas sur ce tableau, c'est qu'effectivement, bah, pour cet été, c'est-à-dire les chiffres du mois de juillet, du mois d'août notamment et du mois de septembre, comme les chiffres qui ont été utilisés ont été arrêtés en octobre, eh bien, il n'y a pas encore, si vous voulez, cet effet retard et cette percolation de l'ensemble des décès. Ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là, c'est prendre le bon fichier, le bon tableau, celui qui sert précisément à mesurer les surmortalités. Il s'appelle, ça n'est pas un gars, il s'appelle Euromomo.
Bah voyons, Euromomo et pas Eurototo.
Non, Euromomo pour European Mortality Monitoring. Et si on regarde ce fichier, pour le coup, apparaissent très très clairement des pics en semaine 17, c'est-à-dire la semaine du 20 avril, ou la semaine 45 qui est celle du 2 novembre. Donc voilà, pour avoir les bons chiffres, il faut regarder les bons tableaux.
Merci beaucoup Nicolas Martin, j'espère ne pas vous entendre la semaine prochaine, mais honnêtement j'ai des doutes. 7h23 sur France Culture.